Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
On connaît bien évidemment la puissance américaine, on connaît l'action militaire des États-Unis qui, tout au long du XXe siècle, sont intervenus dans un grand nombre de conflits. On connaît un peu moins des personnes, des personnalités qui sont intervenues aussi dans cette armée américaine, ce qu'on appelle communément les Indiens, les peuples premiers, cette histoire qu'ils ont poursuivie dans l'armée américaine. Et c'est justement cette histoire que nous allons aborder cette semaine avec mon invité Emmanuel Razavi. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être venu, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et vous nous gratifiez d'un livre très original qui s'intitule « Les guerriers oubliés » qui est paru aux éditions L'Artilleur. Alors, « Les guerriers oubliés », c'est l'histoire ignorée des Indiens dans l'armée américaine. Alors on les appellera Indiens par facilité, hein, on va dire, même s'il y a d'autres appellations qui peuvent être utilisées, on va y revenir, mais enfin c'est le terme que la plupart des gens ont en tête. Et on va voir donc une enquête que vous avez menée sur plusieurs années où vous nous expliquez dans votre ouvrage ces différentes tribus, les rôles qu'ils ont joués au cours des différentes guerres de l'armée américaine, notamment les deux guerres mondiales, aussi la guerre du Vietnam, et puis on parlera enfin des vétérans, la manière pas toujours très correcte dont ils sont traités, en tout cas une plongée dans l'histoire des États-Unis avec ceux qui étaient là avant que n'arrivent les Anglo-Saxons, avant que n'arrivent les colons européens. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire de ces différents peuples et comment vous avez abordé ces reportages, parce que vous êtes grand reporter, vous avez fait de nombreux reportages à travers le monde, mais ce reportage-ci, par quelle porte, si je puis dire, l'avez-vous abordé ?
Alors écoutez, ça a commencé il y a une trentaine d'années, tout simplement, lorsque j'étais un tout jeune journaliste. Je suis allé, au début des années 90, au Canada, où il y avait une révolte des Indiens Iroquois, notamment en fait des Mohawks, qui avaient décidé de bloquer en fait l'île de Montréal, hein, puisque Montréal c'est une île, il faut le rappeler. Pourquoi ? Parce que un promoteur canadien avait décidé en fait de créer un golfe qui jouxtait la réserve et qui allait empiéter en fait sur le cimetière en fait de leur réserve. Et j'ai été extrêmement surpris, encore une fois, on est au début des années 90, hein, donc on est loin de tout ce qu'on a pu voir dans les westerns à la télévision, de voir en fait ces Indiens Mohawks prendre les armes et décider de bloquer quand même une très grande ville, hein, qui est Montréal, d'une part, et de se confronter à l'armée canadienne, hein, puisque les Canadiens avaient envoyé leurs militaires, il y avait même des chars, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts. Et donc, je me suis retrouvé pris, en plein western moderne. Et puis, ce qui m'a beaucoup, impressionné, c'est que, évidemment, parmi ces Indiens, donc il y avait des Indiens du Canada, hein, comme je le raconte dans le livre, hein, parce que je parle des Indiens de l'armée américaine, bien sûr, donc des États-Unis, mais il y a un certain nombre de guerriers indiens du Canada qui se sont aussi envolés dans cette armée. Et j'étais très surpris de rencontrer, en fait, des Indiens qui avaient justement servi dans l'armée américaine, qui était dans un discours extrêmement paradoxal, en tout cas pour le jeune journaliste que j'étais, parce qu'il se plaignait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il se plaignait des conditions dans lesquelles il vivait, il se plaignait de la façon dont le Canada, comme les États-Unis, les traitait ou les maltraitait, alors que depuis des générations, ils continuaient non seulement à servir en fait dans leurs armées, mais en plus à pousser leurs enfants à y aller. Et j'avoue que ça m'a interpellé, je me suis dit, mais comment en fait peut-on à la fois combattre un gouvernement ou des gouvernements en les servant militairement dans le même temps? Et donc cette interrogation, elle a commencé ainsi. J'ai eu la chance, alors on me connaît plus pour mes reportages au Proche, au Moyen-Orient, en Asie centrale, mais j'ai régulièrement depuis 30 ans donc fait des reportages quand même aux États-Unis, au Canada. Je suis allé dans un certain nombre de réserves, j'ai sympathisé avec un certain nombre d'Indiens, d'Indiennes aussi, c'est important de le rappeler, parce que la plupart des gens en fait qui m'ont aidé pour réaliser cette enquête étaient des femmes. On y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes comment dire, qui sont chefs dans leur tribu ou qui font partie des conseils tribaux, en tout cas qui ont une position de leader et qui m'ont aidé à comprendre cela. Et puis, ce faisant, j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'un certain nombre d'entre eux, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu un certain nombre de documentaires à la télévision, j'en ai réalisé moi-même, on a appris que des Indiens avaient combattu dans l'armée américaine, avaient fait le débarquement en Normandie. Mais j'ai appris que dès 1917, lorsque le corps expéditionnaire emmené par le général Pershing avait débarqué en fait en France pour nous aider à combattre contre les Allemands, il y avait près de 13 000 Indiens américains ou canadiens qui étaient venus de façon tout à fait volontaire. C'était pas des gens qui avaient été recrutés parce que les Indiens n'avaient pas la nationalité américaine à l'époque. Ils étaient considérés comme des citoyens de deuxième zone en réalité. Ils avaient des citoyens sans nationalité, mais ils avaient considéré que les Français étaient leurs cousins, qu'ils avaient un devoir. Bon, c'est ce qui m'a été raconté très souvent. Le devoir de venir soutenir leurs alliés. Alors pourquoi cette réaction? Tout simplement parce que depuis les périodes coloniales, notamment depuis les guerres qui ont opposé la France à l'Angleterre au XVIIIe siècle sur le continent américain, je parle de la guerre de 7 ans, un certain nombre d'Indiens avaient combattu en fait auprès des Français et considéré que ces Français étaient leurs alliés. Il y avait eu beaucoup de métissage d'ailleurs avec les colons français. On trouve d'ailleurs des Indiens qui ont, que ce soit aux États-Unis comme au Canada souvent, qui ont des patronymes français. Donc petit à petit, je dirais que le puzzle, en fait, s'est assemblé, que j'ai commencé à découvrir ces histoires, à m'intéresser aussi à ce que nous racontait le cinéma. Une chose frappante que je raconte dans le livre, notamment, je découvre au cours de mon enquête que ces fameuses têtes brûlées, vous savez, qui étaient commandées par le major Pepe Boynton, que nous regardions enfants ou adolescents à la télévision, bah, qu'en fait, ce major Pepe Boynton des têtes brûlées était un Indien Sioux brûlé. Je découvre que le fameux commando des 12 salopards, incarné à l'écran par Lee Marvin, Telly Savalas, Charles Bronson, qui avait été un grand succès du cinéma, en fait, était un commando qui avait vraiment existé, mais emmené en fait par un Indien, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas raconté en fait dans le film. Et donc j'ai eu envie de comprendre, d'enquêter, j'ai commencé à consacrer, je vous l'ai dit, des reportages, des documentaires pour France Télévisions en fait à ce sujet-là. Et de fil en aiguille, m'est venue en fait l'envie de le raconter dans un livre, parce que vous l'avez dit très justement, c'est un sujet qui est très peu exploité, et pourtant qui nous concerne, parce que c'est bien sûr l'histoire des États-Unis ou du Canada, mais à travers les deux guerres mondiales, à travers la guerre de 7 ans aussi, c'est aussi une partie de l'histoire de France.
Quels sont les principaux peuples amérindiens qui vont dans l'armée américaine? D'ailleurs, est-ce qu'il y a des peuples en particulier ou est-ce que ça concerne l'ensemble des survivants des Amérindiens?
Alors, c'est une bonne question parce que c'est exactement ce que je me suis demandé. Je me suis demandé dans quelle proportion, en fait, les gens des tribus indiennes allaient dans l'armée américaine, et je me suis rendu compte que, en fait, toutes les réserves envoyaient leurs enfants servir dans l'armée américaine. Alors, il y a des proportions qui sont très importantes parfois, parce que vous avez des réserves, notamment dans le Midwest, où on trouve des tribus indiennes comme les Ojibwe. Alors, je pense que vos auditeurs ne savent pas forcément qui sont les Ojibwe, mais c'est l'une des tribus les plus importantes du nord des États-Unis du Midwest et du nord des États-Unis avec les Sioux. Et on a parfois jusqu'à 70% en fait de jeunes Indiens, donc dès l'âge de 17-18 ans, qui s'enrôlent dans l'armée des États-Unis. Alors pourquoi? Tout simplement parce que partir dans l'armée, ils considèrent que c'est initiatique, ils appellent ça la voie du guerrier. Ils considèrent que pour passer en fait de l'adolescence à l'âge adulte, il faut servir en fait dans l'armée. Alors, dans l'armée, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de conflits, enfin, il n'y a pas même plus du tout de conflits, je dirais, sur le sol américain, évidemment. Et donc, ça leur permet de partir en Afghanistan, en Irak, ça a été le cas il y a quelques années, bien avant en Corée, au Vietnam, vous l'avez rappelé, donc en France pendant les deux guerres. Et donc, ça leur permet, à travers le combat, d'apprendre des valeurs qui paraissent essentielles à ces tribus indiennes, à ces nations, comme elles se qualifient, indiennes, et d'acquérir, en fait, si vous voulez, d'arriver à l'âge adulte. Alors, ça concerne autant les garçons que les filles, parce que c'est aussi ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a énormément de femmes qui servent dans l'armée indienne, dans différentes unités. Ça peut être parfois des unités combattantes, comme des unités, en fait, logistiques. Mais globalement, pour répondre à votre question, toutes les tribus sont aujourd'hui concernées. On retrouve particulièrement, je parle des Cheyennes, je parle des Sioux, je parle des Ojibwe, on retrouve particulièrement ces tribus-là, notamment en fait dans des forces d'élite de l'armée américaine.
Quel est leur statut dans l'armée? Est-ce qu'ils sont considérés comme des citoyens américains classiques ou est-ce qu'ils ont un statut particulier?
Alors aujourd'hui, oui, parce que les Américains ont donné la nationalité américaine hein, aux Indiens qui en voulaient à partir de 1924. Donc oui, ils sont considérés comme des citoyens américains. Et alors, ce qui est très surprenant, mais c'est un vrai paradoxe, c'est que ces Indiens sont extrêmement respectés par l'armée américaine. Moi, j'ai discuté, hein, j'ai interrogé des sergents recruteurs qui m'ont raconté à quel point, en fait, ils considéraient que ces guerriers étaient valeureux, à quel point ils respectaient leur courage. Et je pense que ce n'était pas fin, hein. Tous les officiers ou tous les officiers américains avec lesquels j'ai pu discuter, en fait, des Indiens qui s'enrôlaient dans l'armée américaine m'ont systématiquement dit à quel point ils les admiraient. Alors, c'est très étrange. Parce que les Indiens, ce n'est un secret pour personne, vivent dans des conditions quand même extrêmement difficiles pour la plupart dans leurs réserves, hein, qui sont des réserves souvent constituées en fait de bidonvilles où la dépendance à l'alcool, la dépendance à la drogue, hein, héroïne notamment ou cocaïne en fait règne, je dirais en maîtresse absolue. Et donc on est dans ce paradoxe où encore une fois aujourd'hui hein, encore ils sont à la fois maltraités, délaissés en fait par le gouvernement des États-Unis et en même temps admirés. Pour leur capacité au combat, pour leur sens du combat par l'armée américaine.
Alors, parmi leurs faits d'armes, il y a, durant la Seconde Guerre mondiale, certains qui ont participé à la question du code, code ou décoder aussi les langages adversaires.
Alors oui, alors ça a commencé, on connaît l'histoire beaucoup de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Code Talkers qui raconte l'histoire en fait. Indien Navajo qui invente un code pour communiquer entre les différentes positions, faisant en sorte que ce code qui est issu en fait de leur langue maternelle ne soit pas compris en fait des Japonais. En réalité, les Code Talkers, ils interviennent dès la Première Guerre mondiale, dès 1917 lorsqu'ils arrivent en France. Vous avez en fait des Indiens de plusieurs tribus en réalité qui commencent à communiquer entre eux d'une position à l'autre, d'une unité à l'autre, en inventant des mots. Oui, en donnant en fait, si vous voulez, une résonance indienne à des mots que les Allemands en fait ne peuvent pas décrypter. Effectivement, cela se reproduit pendant la Deuxième Guerre mondiale, tant durant la guerre du Pacifique, hein, où les Américains affrontent les Japonais. Évidemment, après le débarquement en Normandie, où les Indiens, évidemment, sont au premier rang. Je le rappelais tout à l'heure, hein, il y a près de 50 000 Indiens qui arrivent. Pour autant, on a l'image de ces Indiens, en fait, code talkers, donc ils se disent parleurs de code, voilà, quand ils en parlent, les parleurs de code. Vous voyez, par exemple, pour parler d'un avion, ils parlent d'un grand oiseau, pour parler d'une bombe, ils parlent d'un œuf, tout ça traduit, en fait, en langage. Ça peut être en langage Mok, en langage Choctaw, en langage Navajo, selon les tribus auxquelles ils appartiennent. Mais ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que parmi ces Indiens, nombreux appartiennent à des unités d'élite. Donc ils sont soit éclaireurs, soit snipers. Ce que raconte, alors plus ou moins bien le film Les 12 Salopards, hein, c'est qu'on les parachute parfois derrière en fait les lignes ennemies, derrière les lignes allemandes, hein, pendant comment dire les semaines, les mois qui vont suivre le débarquement, pour aller capturer des officiers allemands. Et évidemment, ils traversent, en fait, ils passent derrière ces lignes, ils sont peu ou quasiment pas repérés. Les rares qu'ils sont en général hein, sont tués par les Allemands. Hein. Il y a eu énormément en fait de soldats indiens qui ont été tués. Et donc, ils ramènent en fait leurs prisonniers pour qu'on puisse les interroger auprès en fait des services de renseignement de l'armée américaine, en prenant des risques inouïs, mais dont les comment dire l'état-major américain dit qu'ils sont les seuls à pouvoir les prendre parce qu'ils savent se fondre quasiment dans n'importe quel environnement. Il faut comprendre que les Indiens, dès qu'ils sont très jeunes, sont habitués en fait à survivre. On leur apprend à survivre dans la nature, parfois dans une nature en fait qui est hostile. On leur apprend à vivre en se nourrissant de ce qu'ils trouvent en fait hein, dans la nature, dans l'environnement, donc à se débrouiller en fait seuls. Et donc tout ça va s'avérer, si vous voulez, extrêmement précieux, extrêmement utile pour des missions qui sont des missions commando. Mais tout ça, on le retrouve en fait dès la Première Guerre mondiale. Lorsqu'ils arrivent avec comment dire, le général Pershing, qui les connaissait extrêmement bien pour leur capacité militaire, qui les respectait énormément dès qu'ils vont arriver en fait sur notre sol. Donc pendant les deux guerres, ils vont se livrer en fait à des actes de bravoure extraordinaires. Je le raconte en quelques lignes dans le livre, mais parmi ces Indiens, énormément en fait reçoivent des médailles d'honneur. Enfin, ils se conduisent de façon absolument héroïque.
Alors, vous évoquez le cas de la guerre du Vietnam en expliquant qu'une grande partie ces populations sont dans les régiments d'hélicoptères ou bien dans les troupes aéroportées. Donc là aussi, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, le fait qu'on les envoie au-delà des lignes, ou en tout cas on s'en sert comme des éléments d'attaque.
Alors, vous avez raison de parler de la guerre du Vietnam, parce qu'elle a une particularité, la guerre du Vietnam. Ce que je raconte dans le livre, c'est que les Indiens, évidemment, ils ont les yeux bridés, comme les Vietnamiens, et on propose à certains soldats indiens de se faire passer pour des Nord-Vietnamiens, donc ils apprennent en fait le vietnamien, on les fait passer derrière les lignes, toujours avec les mêmes missions, qui sont soit d'espionner, soit d'enlever en fait des officiers ennemis pour les ramener et que donc les services de renseignement américains puissent les interroger. Ils vont se livrer aussi, parce qu'il y a des snipers parmi eux, ils vont se livrer aussi à des assassinats ciblés de personnalités nord-vietnamiennes, mais toujours en fait sur le même modèle, c'est-à-dire en passant derrière les lignes sans se faire repérer, parce que évidemment, avec leur visage, on les prend très souvent en fait pour des Vietnamiens, et comme je vous le disais tout à l'heure, de plus, ils apprennent en fait la langue vietnamienne.
Alors, vous évoquez également le cas de ceux qu'on a surnommés les Dog Soldiers, et vous citez notamment un cas que vous avez rencontré, Lance Hanson. Voilà, eux aussi ont eu un rôle particulier dans cette guerre du Vietnam.
Alors oui, alors c'est intéressant que vous parliez de Dog Soldiers. En ce qui concerne l'enquête que j'ai pu mener, ça a été la partie la plus difficile de mon enquête. J'ai mis des années à trouver un Dog Soldiers qui accepte de me parler. Il faut rappeler que les Dog Soldiers, c'est une société secrète de guerriers Cheyenne que les historiens disaient disparue depuis presque 100 ans. Ils ont été chassés, pourchassés par la cavalerie en fait des États-Unis. Ils ont été dans leur ensemble massacrés en fait dans les années 1860. On trouve quelques Dog Soldiers à la bataille de Little Bighorn, la fameuse bataille de Little Bighorn, vous savez, qui oppose le général Custer à Sitting Bull et à Crazy Horse. Et puis on n'entend plus parler. Et les historiens disent, ils ont disparu, ils n'en existent plus, ils sont tous morts. Et ce n'est pas le cas. Et effectivement, j'ai pu en fait échanger avec Lance Hanson, qui est un Dog Soldiers, donc qui fait partie de cette confrérie secrète en fait amérindienne. Il y a énormément de sociétés de guerriers secrètes chez les Indiens. Et pour intégrer en fait cette société, il faut avoir tué au moins une fois dans sa vie. Alors, ils disent pas comment, ils disent pas s'il faut avoir tué en fait à la guerre ou s'il faut avoir tué dans un autre cadre, mais aucun Indien ne peut l'intégrer si il n'a pas tué au moins une fois. Et c'est une société qui est extrêmement dure, mais comme les sociétés en fait secrètes de guerriers, ce qu'ils appellent les Warrior Society, parce que pour y rentrer, évidemment, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas toucher à la drogue, enfin, il faut avoir une vie qui est une vie extrêmement saine. Ce sont en général des gens qui sont extrêmement sportifs. Ce sont pour la plupart tous d'anciens combattants, même encore aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait la guerre du Vietnam, vous en parliez, mais qui ont pu en fait combattre aussi en Afghanistan ou en Irak, parce que je le raconte dans le livre, il y avait des combattants amérindiens en Afghanistan comme en Irak, et ce sont des sociétés qui sont quasiment inapprochables. Je pense d'ailleurs que je suis l'un des très rares journalistes occidentaux à avoir pu en fait échanger avec l'un de leurs guerriers, non des moindres, parce qu'il est très célèbre, Lance Hanson, il est très connu, très respecté, et qui a accepté de me raconter, de me livrer quelques anecdotes effectivement sur cette société secrète.
Quelle est la finalité de ces sociétés? C'est une association d'anciens combattants ou c'est une entraide aussi?
Alors, ce ne sont pas des associations d'anciens combattants. Il existe des associations, vous avez raison, de vétérans amérindiens dans toutes les réserves indiennes. Vous avez des associations en fait d'anciens combattants. Non, ce sont des sociétés en fait qui sont secrètes, qui refusent totalement, si vous voulez, le fait de discuter avec les gouvernements blancs, qu'ils soient canadiens ou qu'ils soient, américains. Ils considèrent aujourd'hui que les Indiens, en fait, qui se fourvoient, par exemple, dans des négociations, régulièrement, il y a des négociations sur des terrains, des territoires à obtenir, sur des subventions, eux, ils considèrent que le gouvernement des États-Unis est nul et non avenu. Ils considèrent que le gouvernement canadien est nul et non avenu. Donc, ils combattent, si vous voulez, à la fois pour préserver leur tradition, mais ils combattent aussi, ils revendiquent en tout cas la résurgence des cultures amérindiennes, parce que chez les Dog Soldiers, ce sont surtout des Cheyennes qui sont concernés, mais au sein de la Warrior Society, on retrouve des Warriors quasiment dans toutes les tribus. Il y en a chez les Sioux, il y en a chez les Mohawks, enfin, il y en a un petit peu partout. Et ces gens-là, aujourd'hui, se disent traditionnalistes, et refusent en fait toute forme, si vous voulez, de lien, toute forme de discussion avec les autorités, ce qu'ils appellent les autorités blanches. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, hein, je le dis dans le livre, hein, vivent en délicatesse avec les autorités, sont parfois recherchés par la police des États-Unis ou du Canada, parce qu'ils mènent régulièrement en fait des actions qui sont des actions qui peuvent être assez, comment dire, assez dures contre ces gouvernements. Je parlais des années 90. Et des Mohawks qui s'étaient rebellés, il y avait parmi eux en fait des membres de ces sociétés secrètes qui ont tiré en fait sur l'armée canadienne. Il y a eu au début des années 70 l'occupation d'une réserve Sioux à Pine Ridge. On retrouve également les membres de ces sociétés secrètes. Et là, c'était un véritable presque film de guerre. Ils se sont quasiment entretués avec des officiers du FBI, avec des membres en fait de l'armée américaine. Il y a eu des morts. Donc en général, ils sont plutôt réputés pour avoir des actions qui sont, comment dire, extrêmement dures. Ce sont des activistes, voilà, qui ont créé, je dirais, leur fraternité de guerriers, leur fraternité secrète.
On retrouve là le paradoxe que vous évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire des personnes très engagées dans l'armée américaine et dans le même temps opposé au gouvernement ou créant des sociétés parallèles.
C'est exactement ça. Vous avez absolument raison. En fait, cette enquête, pour moi, c'était l'enquête sur un paradoxe. C'est à la fois un petit peu de la contre-histoire, parce qu'on ne connaît pas ce côté de l'histoire des États-Unis, et en même temps, enquête sur un paradoxe, c'est comment, en fait, des Indiens qui combattent en permanence le gouvernement des États-Unis peuvent-ils s'engager dans son armée? Alors, je voulais raconter, la raison, elle est assez évidente, c'est que il y a évidemment ce caractère initiatique, hein, qui permet, comme je le disais, de passer du statut d'adolescence à celui d'adulte. Il y a aussi une réalité économique. On le constate, hein, quand on va dans les réserves, c'est que dans ces réserves, il y a deux tiers de la population, en fait, hein, vit au chômage. Il y a énormément, en fait, de suicides de jeunes. Je parlais de Pine Ridge, de la réserve de Sioux de Pine Ridge, qui est dans le Dakota du Sud. Vous avez quasiment un suicide, en fait, par semaine. Et donc, un certain nombre, en fait, de ces jeunes décident de s'engager dans l'armée. Pourquoi? Parce que ça leur permet aussi d'avoir un travail. Et puis, dans certains cas, ça leur permet, en fait, d'obtenir des bourses universitaires. En général, ils y restent 4 ans, et au bout de 4 ans, donc lorsqu'ils quittent l'armée, ils peuvent prétendre, si vous voulez, à faire des études. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ces Indiens. Il y a de plus en plus de gens qui sont quand même extrêmement bien formés, hein. Ils ont énormément de juristes, ils ont des médecins, enfin, voilà. Mais vivant quand même dans des réserves qui sont abandonnées des institutions, hein, très clairement. Donc, si vous voulez, ce paradoxe, il s'explique à la fois par ce côté initiatique et puis aussi par ces réalités qui sont des réalités purement économiques. L'un n'empêchant pas l'autre.
Alors, sur ces réalités économiques, il y a la question des vétérans. Ça, c'est un grand sujet aux États-Unis. On sait qu'ils ont un poids politique important. On parle en France d'anciens combattants. Dans votre ouvrage, il y a un carnet de photos en couleur. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est un beau travail réalisé par l'éditeur. Et on voit notamment quelques photos d'Indiens dans leur mobilhome, qui vivent dans des conditions particulièrement précaires, pas d'eau, pas d'électricité, ils sont dans des endroits qui sont une sorte de bidonville, donc on voit vraiment une pauvreté extrême de ces personnes qui ont consacré une partie de leur vie à l'armée américaine.
Oui, exactement, c'est ce que je vous disais. Alors, vous saluez, je vous en remercie, le travail photographique qui a été fait. Là, vous citez des photos notamment qui ont été faites par mon ami, le grand photographe, un grand reporter photographe Alain Bu. Et effectivement, en fait, ce que l'on montre à travers ces photos, c'est l'extrême dénuement dans lequel se retrouvent en fait ces anciens vétérans. Je le disais, un certain nombre en fait d'entre eux, hein, obtiennent des bourses parfois une fois qu'ils ont servi leur service, ils ont fini leur service, pardon, mais ça reste quand même assez rare. La plupart retournent dans leur réserve et tombent en fait sombres dans l'alcool. Dans l'alcool, parfois la drogue. Ce sont les images d'ailleurs que l'on montre là avec Alain dans le livre, où ils sont complètement en fait abandonnés de tous. Alors, il y a des associations, si vous voulez, au sein des réserves, hein, qui essayent de les prendre en charge, qui essayent de les aider, mais ça ne suffit pas. Ils disposent en fait bien sûr de dispensaires médicaux, mais les soins hospitaliers quand même sont relativement limités. Ils n'ont pas les moyens. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est extrêmement cher de se faire soigner. Il faut avoir une sécurité sociale. Ils n'en ont pas. Et donc, ces gens qui ont servi l'Amérique, ces gens qui ont servi l'armée américaine et pourtant qui sont extrêmement respectés en fait par la hiérarchie militaire américaine, bah, très souvent se retrouvent quasiment au statut en fait de SDF, de clochard, à vivre au mieux en fait dans des mobil-homes. Beaucoup de toute façon ne vivent pas vieux, hein, à cause de la drogue, de l'alcool, comme je le disais. Certains en fait se retrouvent en prison parce qu'il y a énormément de délinquance, donc ils sombrent dans la délinquance, il y a beaucoup de rixes. Moi, je me souviens la dernière fois que j'étais en fait à Pine Ridge, il se passe pas un soir sans qu'on entende des coups de feu en fait sur la réserve. Hein. Je dirais pas que c'est une zone de guerre, j'en ai fait suffisamment pour ne pas comparer l'incomparable, mais on se retrouve quand même dans des zones qui sont extrêmement dangereuses. Et vous pouvez pas faire 100 mètres sans être accosté par un Indien cocaïné ou shooté à l'héroïne qui vient vous demander de l'argent. Si vous lui donnez pas, il vous menace de vous tuer. Enfin, c'est aussi ce contexte-là. Alors, pas dans toutes les réserves, mais dans un certain nombre de réserves. Il y a aussi des réserves qui s'en sortent plutôt pas trop mal. Mais vous voyez, le retour à la vie, je dirais, civile de ces combattants amérindiens est parfois, même souvent, dramatique.
Alors, revenons sur le rôle des femmes. Là aussi, il y a une photo qui est très émouvante. On voit des femmes vétérans de l'armée américaine dans une cérémonie. Et vous dites qu'elles ont servi en Afghanistan et en Irak. Donc c'est un lieu où on ne s'attend pas forcément à les rencontrer.
Effectivement, vous avez raison, je l'ai découvert d'ailleurs moi-même hein, en discutant avec les vétérans. Et la photo à laquelle vous faites allusion, c'est une photo en fait d'un powwow de vétérans amérindiens. Il y a des powwow chaque année, donc les powwow sont des grands rassemblements hein, en général, où les Indiens viennent en tenue. On y retrouve en fait ces vétérans. Et effectivement, un certain nombre de femmes qui ont pu servir en fait comme combattantes, aussi comme sous-officiers ou comme officiers, durant les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Certaines d'ailleurs ont été tuées. Hein. Aux États-Unis, on leur rend beaucoup hommage. Les tribus perpétuent leur mémoire. Alors tout ça s'explique aussi par le fait que un certain nombre de sociétés amérindiennes sont des sociétés matriarcales. Je vous disais au début de notre entretien que j'avais été très aidé par les femmes qui ont souvent des positions de leader dans certaines tribus ou certaines nations indiennes. Et si vous voulez, en tant que leader, elles aussi, elles concourent à suivre ce parcours initiatique, si vous voulez, du guerrier, pour être respecté et pour avoir ensuite la possibilité d'obtenir des postes, si vous voulez, de leader. Alors au sein de ce qu'on appelle les conseils de bande, notamment au Canada, ou des conseils tribaux, c'est-à-dire, si vous voulez, ces sortes de municipalités des réserves, voilà, et sortes de conseils municipaux des réserves, où on retrouve la plupart du temps d'anciens combattants et d'anciennes combattantes, qui sont aussi parfois des activistes. Et moi, très clairement, hein, quand on parle des femmes, mon livre n'aurait jamais pu être fait sans l'aide de ces femmes indiennes. Elles travaillent énormément à perpétuer la mémoire des guerriers amérindiens. Elles travaillent de façon globale hein, à perpétuer d'ailleurs la mémoire, je dirais, des tribus indiennes en général, leur histoire. Et si vous voulez avoir un journaliste, alors qu'elles ont vu pendant plusieurs années revenir, les rencontrer, discuter avec elles, pardon, voir un journaliste s'intéresser à leur histoire, à leur cause, notamment français, hein, il y a un grand respect de la France chez les Indiens, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Les Français ont été alliés de nombreuses tribus indiennes pendant la guerre de 7 ans, ce qu'on appelait les guerres franco-indiennes, en fait, aux États-Unis, alors que ce n'était pas encore les États-Unis, quelques années avant l'indépendance américaine. Et donc, pour elles, c'était très important. Donc, ces femmes, elles jouent un rôle essentiel. Je dirais qu'elles sont un peu le cœur de nombreuses réserves.
Est-ce que on a des Indiens qui sont devenus officiers supérieurs? On sait que, par exemple, pour la communauté noire, il y a Colin Powell ou l'actuel secrétaire à la Défense qui font la fierté légitime de cette communauté parce qu'ils ont monté à des postes et des grades très élevés. Est-ce que c'est le cas également chez les Indiens?
Alors oui, il y a Kevin Brown, Red Eagle, Aigle Rouge, que j'ai longuement interviewé pour mon livre, qui est un colonel de l'armée américaine, qui est un colonel en fait Mohegan, donc de la tribu des Mohegans, qui a servi en fait en Irak, qui est très connu aux États-Unis parce que il est réputé pour ses actes de bravoure. Il a d'ailleurs participé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut que les gens le découvrent dans le livre, mais il a d'ailleurs participé à la libération d'un otage français En 2006, je crois de mémoire, qui était détenu en fait par une faction djihadiste en Irak. Donc oui, on en trouve un certain nombre. On en trouve un certain nombre qui font aussi des études importantes à West Point, hein, qui est une grande académie militaire américaine. Bah, Kevin Brown en fait partie, hein, lui-même a fait des grandes études militaires. Donc il y en a. Alors après, par contre, on les voit moins. Comment dire, ils sont peut-être moins visibles, si vous voulez, que les gens comme Colin Powell pour une raison extrêmement simple, c'est que comment dire, les Indiens étant versés, ayant été souvent versés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans des unités blanches, il n'y avait pas d'unités noires. Donc on n'arrivait pas tellement à documenter leur parcours, c'était extrêmement difficile. Alors que c'était plus facile de le faire en fait pour les soldats noirs, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas versés dans les unités blanches, qu'il y avait des unités en fait noires, et qu'on arrivait plus facilement à documenter en fait leur comment dire, leur parcours. Donc le travail, je dirais, des historiens a commencé plus tôt en fait sur les soldats noirs que sur les soldats en fait sur les soldats comment dire indiens. La deuxième chose, c'est que la communauté noire, même si elle vit souvent ghettoïsée dans des grandes villes en fait américaines, contrairement en fait aux Indiens, elle n'est pas parquée en fait dans des réserves. Il faut comprendre que les réserves dont on parle, elles sont loin de tout. Vous voyez, je parlais par exemple de Pine Ridge ou par exemple de la réserve de Standing Rock. Vous avez des réserves qui font plus de 400 kilomètres de long. Elles sont plus grandes que certaines régions françaises. Je crois que je fais la comparaison entre l'une de ces réserves et la Bourgogne, quoi. Elles sont parfois plus grandes que des régions comme la Bourgogne. Donc ces gens-là, en fait, vivent à l'écart, si vous voulez, finalement des États-Unis, alors qu'ils sont sur le territoire américain. Et pour l'anecdote, moi je me souviens, un jour, j'étais perdu dans le Dakota. Je cherchais justement, en fait, une réserve qui était à 6 ou 7 kilomètres d'une petite ville dans laquelle je me trouvais, une petite ville du Dakota. Et je demandais aux gens, je disais, mais est-ce que vous savez où je peux trouver cette réserve? Et les gens me riaient en me disant, mais il n'y a plus d'Indiens, Emmanuel, c'est fini, ça fait 100 ans qu'il n'y a plus d'Indiens aux États-Unis. La réserve, elle était juste à quelques kilomètres, vous voyez. Donc, ce qui montre bien, en fait, que ces gens-là vivent quasiment côte à côte sans se voir, sans se côtoyer. Donc, c'est un autre monde. D'ailleurs, quand on rentre dans les réserves, clairement, on rentre dans un autre univers, hein, dans un autre monde, pour la plupart d'entre elles en tout cas.
Merci beaucoup, Emmanuel Radavi, d'avoir présenté ces guerriers oubliés. C'est le titre de votre ouvrage qui est paru chez L'Artilleur, l'histoire ignorée des Indiens dans l'armée américaine. Et c'est une tranche de l'histoire des États-Unis, une face un peu méconnue des États-Unis, qui nous permet aussi de mieux comprendre la façon dont fonctionne ce pays. Merci beaucoup pour votre fidélité.
Merci infiniment, Jean-Baptiste, et merci à la revue Conflit. Merci infiniment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.